devenir romancier. De retournement en retournement, je découvre que le romancier assassin n'a en fait tué personne. Hein, tout ça pour ça. Mon téléphone posé sur la table de nuit retentit. Coucou, tout va bien? Vous êtes chez vous? Oh, j'ai pas envie d'être dérangé. Je déteste ces messages qui ne disent rien. Pas de réponse. Tout va bien? Vous êtes en sécurité? Comment ça en sécurité? Je pose le livre, me précipite dans le salon sur la pointe des pieds. Il ne faut pas réveiller bébé. J'attrape la télécommande. La boîte à horreur m'a un temps fou à s'allumer. Attentat au Stade de France. Les images ne disent rien. Je pense à Hélène. L'appeler. Lui dire qu'il serait plus prudent de prendre un taxi pour rentrer. Mais il y a autre chose. Dans les couloirs du stade, certains sont figés devant un écran. Je ne découvre les images qu'au travers de leur visage. Ils semblent effarés. Ils perçoivent quelque chose que je ne vois pas encore. Puis en bas de mon écran, le bandeau qui défile trop vite s'arrête soudain. La fin de l'innocence. Attentat au Bataclan. Coupure son. Je n'entends plus dans ma poitrine que mon cœur qui tente de s'échapper. Ces deux mots résonnent dans ma tête comme un écho qui semble ne jamais vouloir se terminer. Une seconde comme une année. Une année de silence plantée là dans mon canapé. Ce doit être une erreur. Je vérifie que c'est là qu'elle est allée. Je peux me tromper, avoir oublié. Le concert est bien au Bataclan. Hélène est au Bataclan. Coupure image. Je ne vois plus, mais je sens une décharge électrique qui me traverse le corps. J'ai envie de courir, de voler une voiture, d'aller la chercher. Il n'y a plus que l'urgence qui brûle à l'intérieur de mon crâne. Il n'y a plus que le mouvement pour calmer ces flammes. Mais je suis paralysé car Melville est à côté et je suis coincé ici. Condamné à regarder l'incendie se propager, j'ai envie de crier. C'est impossible, il ne faut pas réveiller bébé. J'attrape mon téléphone, je dois l'appeler, lui parler, entendre sa voix. Contact. Hélène, simplement Hélène. Je n'ai jamais changé son nom dans mon répertoire, jamais ajouté de « mon amour » ou de photos d'elle et moi pour l'illustrer. Elle non plus. C'est un appel d'Antoine, elle, qu'elle n'a jamais reçu ce soir-là. Sonnerie. Messagerie. Je raccroche, recommence. Une fois, deux fois, cent fois, autant qu'il le faudra. Je me sens étouffé par ce canapé qui se referme sur moi. L'appartement entier est en train de s'effondrer. À chaque appel sans réponse, je m'enfonce un peu plus profondément dans les décombres. Tout me paraît étranger, le monde autour s'efface, il n'y a plus qu'elle et moi. D'un coup de téléphone, mon frère me rappelle la réalité. Hélène est là-bas. À l'instant où je prononce ces mots, je comprends qu'il n'y a pas d'issue. Mon frère et ma sœur débarquent dans notre appartement. On ne sait pas quoi se dire. Il n'y a rien à dire. Ça n'a pas de nom, de toute façon. Dans le salon, la télévision est allumée. On attend, les yeux rivés sur les chaînes d'information en continu qui ont déjà lancé le grand concours du titre le plus racoleur, le plus pervers, celui qui nous maintient captifs, spectateurs d'un monde qui se délite. Massacre, carnage, bain de sang. J'éteins l'écran avant que le mot « boucherie » ne soit prononcé. La fenêtre sur le monde est fermée, place à la réalité. La femme de N me téléphone. Il était au Bataclan avec Hélène. Il est hors de danger. Je l'appelle, il ne répond pas. Une fois, deux fois, trois fois, enfin, il décroche. La mère d'Hélène nous rejoint. Il faut agir, faire quelque chose. J'ai besoin de sortir vite. Au moins autant pour la retrouver que pour échapper à l'armée de non-dits qui a pris ses quartiers dans mon salon. Mon frère ouvre la voie. En silence, il attrape les clés de sa voiture. On chuchote un plan d'action. Derrière nous,